Je vous propose, alors si vous avez la possibilité de rester avec nous encore, moi je serais très curieux de voir tout à l'heure comment vont se conjuguer vos propos avec ceux de Didier Mars qui nous rejoint maintenant. Voilà. Et que je suis content d'accueillir, évidemment. Il nous a paru important, en préparant ce forum, de ne pas faire comme si nous savions tout de la honte. Alors, l'intervention d'Aurore Vincenti vient de nous éclairer tout particulièrement, mais continuons. On admet évidemment, s'agissant d'une image dépréciée de soi-même, on admet volontiers que psychologue ou psychanalyste puisse nous en dire beaucoup, mais volontairement, c'est à un philosophe essayiste que nous avons demandé de nous aider à faire la lumière sur cette notion. Et ceux qui participent au forum du CNDPF de façon régulière, vous connaissez déjà Didier Martz, philosophe rémois. Il assure aussi bien des cafés philo que des chroniques sur les ondes. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, mais là je me méfie parce que... Enfin, ils ont tous été publiés, les siens, ils sont tous sortis.
Ouais.
Enfin, il y en a qui vont être réédités bientôt. Allez, bref. Des ouvrages qui sont souvent relatifs à des questions qui touchent à la vieillesse, à la fin de vie, mais ils s'intéressent plus globalement à la société telle qu'elle nous fait vivre, et ils tentent volontiers d'en décoder le fonctionnement avec quelquefois une façon, bien à lui, de nous proposer un pas de côté là où nous ne nous y attendions peut-être pas. Donc, je te dis pas la honte, mais que se passe-t-il quand nous en arrivons à dire de l'autre, ou à le penser, à dire de l'autre qu'il nous dégoûte ? Goût et dégoût de l'autre. Merci Didier.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir à nouveau. J'espère qu'il n'y aura pas trop de lassitude à m'entendre. Je réagis là pour... Enfin, ce n'est pas une réaction, c'est une proposition sur le mot autonomie. On en fait un peu trop le synonyme de automobile. C'est-à-dire qu'autonome, c'est quelqu'un qui marche, qui sait marcher. Ce n'est pas quelqu'un qui proteste, qui dit « j'ai envie de ceci, j'ai envie de cela, je désire ceci », qui est capable de négocier, etc., qui rentre dedans, quoi, en fait. Hein. Non, c'est quelqu'un qui marche, qui se déplace, qui fait des gestes quotidiens, etc. On dit ça maintenant, de l'autonomie.
Qu'on va évaluer avec la fameuse grille Agir, oui. Autonomie gérontologique, groupe ISO ressources. Si ça vous chante, on vous la fera passer tout à l'heure.
Je place, en prenant quelques risques, ce vers de René Char. Ce qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égard ni patience. Vous voyez le risque que je prends. Celui qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égard ni patience. Parce que ma philosophie ou ma tentative de philosopher ou d'essayer des idées, alors on dit de la philosophie qu'elle part d'un étonnement, de la curiosité, souvent pour moi et pour quelques autres, ça part plutôt d'un agacement, d'une révolte ou d'une colère aussi, hein, par rapport à un certain nombre de choses qui me font réagir. Quelquefois ce sont des mots employés abusivement, quelquefois ce sont des situations. Et bon, comme ça vous saurez à peu près de comme on dit, de où je parle, c'est comment on en est arrivé à devoir décrire notre rapport aux autres en termes de honte, en termes de goût et de dégoût. Comment on en est arrivé là? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut simplement envisager que quelqu'un puisse avoir honte de la situation dans laquelle il est, quel qu'il soit? Comment peut-on envisager qu'aujourd'hui, des gens puissent avoir honte? Quelle est la pression qui s'exerce sur eux pour qu'ils puissent avoir honte de ce qu'ils sont? Au point même que nous puissions aussi avoir honte d'eux et de les rejeter, au point même qu'ils puissent nous dégoûter parce qu'ils sont sales, parce qu'ils puent, parce qu'ils sont, pour les uns, dans leur change depuis une journée, pour les autres, parce qu'ils sont étalés sur un trottoir, parce qu'ils sont... Alors, non pas migrants. Le migrant, c'est... Bon, il n'y a que les oiseaux qui migrent, hein, en général. Mais le migrant, c'est celui qui est en train de passer d'un point à un autre. Ce sont d'abord des... Une fois qu'ils sont arrivés, ce sont des réfugiés. Donc, comment se fait-il qu'on en soit arrivé là? Et il me semble que... je pense... Alors, ça, c'est mon point de départ. Je pense qu'on est dans un monde mauvais, comme dit Laganerie, Geoffroy de Laganerie. Nous sommes dans un monde mauvais, dans un monde injuste, dans un monde qui produit de l'injustice, un monde qui produit de l'inégalité et donc qui produit de l'irrespect, qui rend des gens indignes d'être là. Et par rapport à ce qu'il disait toujours, il ne suffit même plus de se présenter comme un être humain pour avoir une garantie d'être traité comme tel. Quand on observe les situations, il y a aujourd'hui des êtres dits humains qui sont traités de façon inhumaine. Et de là, effectivement, j'ai envie de troubler un peu le monde et d'alerter. Mais vous êtes nombreux à le savoir déjà, mais je crois qu'il faut le. Je participais récemment au déménagement, puisque vous en avez entendu sans doute parler, et grâce à cette publicité, on a pu les reloger, donc les réfugiés de Reims, qu'on a déménagé. Donc, ils étaient d'abord sur une butte, plantés leur tente, mais ça gênait, hein, ça fait du bruit, ça fait du bruit des réfugiés, et puis bon, c'est pas très propre. Donc, ils ont traversé la rue et se sont mis dans un parc en face, avec des tentes de fortune, hein, il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien du tout, hein, et donc ça va de la dame qui a 80 ans à peu près, et puis, et il y a l'enfant qui en a deux ou trois, hein, il s'appelle pas le petit Elan, il s'appelle Gabriel. Il vient de l'Angola. Voilà, il y a eu un arrêté et il fallait les déménager. Donc, on les a déménagés sous la pluie, la grêle, etc. On les a déménagés sur le campus universitaire. Et assez maladroitement, parce que comme la sécurité des personnels et des étudiants était menacée par cet enfant de 3 ans, le président a jugé utile de fermer la fac. Et en fermant la fac, eh bien, ça nous a moyennement servi, ça les a moyennement servi, puisque on a été obligé, au bout de quelques jours, enfin, de les loger, qui, comme disait Madame Versini, à l'hôtel, et d'autres à l'armée du salut. Et là, on a le spectacle de l'inhumanité. Hein, c'est-à-dire que, comme je le disais, être humain, ça n'est pas suffisant. Pour estimer, pour pouvoir avoir des conditions de vie humaines. Et on pourrait citer aussi cette grève des soignants de la maison de retraite des Opalines, qui a duré un mois, parce que dans cette maison de retraite, on peut appeler ça aussi résidence, on aime beaucoup les euphémismes, hein, aujourd'hui, dans ces maisons de retraite, eh bien, on traite des gens, on les traite pas humainement. Hein, et être humain, ça n'est plus une garantie. Et comme dit Hannah Arendt, pas pour le plaisir de citer, mais enfin, je suis fan d'Hannah Arendt parce que je crois qu'elle nous éclaire beaucoup sur ce qu'est notre société aujourd'hui à partir du travail qu'elle a fait sur les origines du totalitarisme. Elle montre qu'il y a une extension de la désolation dans nos sociétés. Madame Versini disait, je ne sais pas combien de milliers de gens qui vivent et d'enfants qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Eh bien, il y en a plusieurs millions en France. Et il y a des gens qui vivent dans des conditions déplorables, dans l'isolement aussi, hein, visible, invisible. Et c'est ce qu'elle appelle l'extension de la désolation, ou ce que Baudrillard appelle aussi la constitution d'un désert social. il y a dans notre société un désert social, hein, c'est-à-dire des lieux qui ne sont plus des lieux d'ailleurs, hein, qui sont des lieux comme des lieux de transit, hein, entre un point et un autre. Eh bien, ces lieux, des lieux qui se constituent un petit peu partout dans notre société. Bon, on me dira que j'exagère et je dirais tant mieux. C'est bien que j'exagère un peu, de manière à ce que nous puissions nous emparer de ces phénomènes. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des droits, il ne suffit pas de mettre en avant, même si ça me paraît nécessaire, de mettre en avant le respect, la dignité ou les droits humains, les droits de l'homme, ça n'est pas suffisant pour les garantir. Et l'éthique, la morale n'est pas suffisante pour garantir ces individus-là d'exaction, de maltraitance ou un peu plus avant d'extermination. Donc ça n'est sans doute que c'est nécessaire, hein, ces déclarations sont nécessaires, mais elles sont loin d'être suffisantes parce qu'elles ne garantissent pas les individus. Il suffit pas, c'est ce que dit aussi Primo Levi, qui a été cité tout à l'heure, il ne suffit pas d'être humain pour être garanti des exactions. Et les processus de déshumanisation, eh bien, c'est-à-dire perte d'identité, on le voit avec ces réfugiés, par exemple, la perte d'identité est une des premières étapes de la déshumanisation des individus. Donc désolation et perte des espaces publics, perte de l'appartenance à soi, etc., etc., solitude. On est donc dans des processus qui, à mon avis, sont inquiétants. Et donc je pars de ce constat-là. Alors si vous voulez le partager ou le contester, on pourra le faire. Mais en tous les cas, ça me paraît être pour moi un point de départ important pour expliquer de où je parle. Voilà. Alors, je reviens donc maintenant sur... je reviens pas, en fait, je suis sur le thème. J'avais plusieurs façons de l'aborder. Comme je le disais dans mon petit topo, pour moi, à chaque fois qu'il y a un sujet comme ça qu'on me propose, c'est toujours une énigme à résoudre, hein, puisque eux, dans leur coin, ils ont coqueté ça, ils ont fait un texte intéressant, mais il est jamais complètement explicite. Donc, je te dis pas la honte, du sentiment de honte à la dignité et à la citoyenneté, puis du goût et du dégoût des autres, à chaque fois, même si j'ai participé un peu quand même, mais au début, on a une vague intuition de la chose, etc. Puis après, quand on se met à réfléchir, à travailler un peu sur les mots qui sont là présents, on se dit, oulala, c'est quand même un petit peu plus compliqué cette affaire. Donc, il y a pour moi une énigme à résoudre. D'une part, bon, je reviens pas sur le, je te dis pas la honte, mais il y a bien sûr un travail à faire. Vous l'avez fait, madame ou mademoiselle, vous l'avez fait sur les différents termes qu'on emploie. Ce qui m'a intéressé, c'est pourquoi on a dit à la dignité du citoyen. Et on aurait pu dire la dignité de la personne, comme très souvent, ou de l'homme, à la dignité de l'homme. Mais on a dit à la dignité du citoyen. Il me semblait là qu'il y avait une chose intéressante, parce que si les droits... Pardon ? Ah, c'est Michel qui a dit citoyen. Bon, bah, ça y est, t'es repéré. Ah bon, d'accord. Bah, ça m'a troublé, en fait. Parce que je suis habitué, non pas de ta part, mais je suis habitué effectivement aux droits de la personne, aux droits de l'homme, etc. Et là, les droits du citoyen. Et du coup, ça a fait écho, parce que la déclaration, elle est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et que l'assise, je reviens à ce que dit Hannah Arendt, c'est que des droits de l'homme qui se baladent comme ça dans le ciel des idées, sans une assise juridique et politique et sociale qui est la citoyenneté, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'il faut asseoir les droits sur de la citoyenneté. Si t'as pas la citoyenneté, t'as pas de droit. Tu peux toujours dire, oui, on peut les invoquer comme ça, dans les conférences, dans les salons, dans les machins, les trucs, etc. Mais si t'as pas une assise qui est celle de la citoyenneté, avec tout ce que ça veut dire, à ce moment-là, les droits sont un peu nuageux quand même. Hein.
Alors c'est bien exactement dans cet esprit-là qu'on avait introduit cette notion de citoyenneté, pour que la dignité ne puisse pas être, ce que j'appellerais volontiers, une sorte de dignité en apesanteur.
Oui, c'est ça, en apesanteur.
Une dignité flottante,
ouais, ouais, flottante.
Flottante, mais qui ne s'inscrirait nulle part.
Ouais.
Et c'est bien cette notion de citoyenneté qui doit permettre de l'inscrire dans l'ici et maintenant de nos relations avec ceux qu'on appelle nos concitoyens.
Ouais.
Qu'on devrait considérer comme tel.
Et donc, pour un réfugié, ne pas être citoyen, ça l'empêche d'avoir des droits. Si j'ai affaire à un citoyen, ben, pour le respect, pour la dignité, etc., ça va commencer à compter sérieusement. Comme la personne qui est dans une maison de retrait ou résidence ou que sais-je, si elle ne peut plus exercer sa citoyenneté, pas simplement parce qu'on va l'élu du coin va mettre un bus en place pour venir les chercher et les emmener au bureau de vote, hein. La citoyenneté dans la petite cité que constitue l'EHPAD ou la maison de retraite, c'est un lieu où on peut discuter des règles, où on peut dire bah non, je trouve que le lever à 7h30 ou que je trouve que madame Intel qui est aide-soignante lui dire qu'elle ne dispose que de 4 minutes pour faire la chambre, la toilette, le petit déjeuner, etc., etc., c'est pas suffisant, eh bien, nous, locataires de cette maison, eh bien, nous revendiquons que elle ait plus de temps pour faire son travail. Donc ça, c'était un exercice de la citoyenneté. Alors, il y a des comités qui existent, quelquefois un peu bidon, mais il y a des comités qui existent, mais c'est ça, la citoyenneté. Or, il y a des lieux qui sont des lieux de neutralisation, non seulement de la personne, mais des neutralisations des individus. De neutralisation, c'est-à-dire, ils ne sont plus des citoyens, ils ne sont plus ceci, ils ne sont plus cela, ils sont simplement vieux. Handicapé, réfugié, voilà un nom générique qui fait que vous êtes réfugié, vous n'êtes pas monsieur un tel, vous êtes réfugié, voilà. Et donc la citoyenneté est importante comme revendication, et que je dirais presque avant de revendiquer des droits, alors je ne sais pas si je peux dire avant, mais avant même de revendiquer des droits, je crois qu'il faut revendiquer la citoyenneté, pas simplement parce qu'on a des papiers, mais aussi parce que la citoyenneté est un exercice. Mais c'est valable pour nous aussi. Quels sont les lieux où nous pouvons exercer notre citoyenneté, pas simplement une fois tous les 5 ans pour les mettre à un bulletin de vote. C'est-à-dire la citoyenneté, c'est être citoyen. C'est, comme disait Rousseau, c'est le bon citoyen, c'est celui qui sait désobéir. Le citoyen éclairé, c'est celui qui sait désobéir. Voilà, alors... Je reviens, comme dans la farce de Maître Patelin à mes moutons, la question de la honte. Alors, ça fait un contrepoint intéressant, parce que j'avais choisi plutôt moi que de partir par le haut, sans que ce soit péjoratif, mais par les définitions. Je fais plutôt une philosophie, ce que j'appelle de l'ordinaire, ou si je veux être un peu pédant, une philosophie de la phénoménologie, c'est-à-dire l'intérêt sur le vécu des choses, sur les phénomènes tels qu'ils se présentent à nous. Et donc, en réfléchissant, je me suis dit, bon, la honte, on sait peut-être pas bien, sauf si on va chercher ou si on écoute quelqu'un d'intéressant qui nous dit « voilà ce qu'est la honte ». C'est pas de la pommade que je passe comme ça. Mais c'était intéressant d'avoir l'aspect définition, mais la définition, comme je le disais tout à l'heure, la définition, elle définit, c'est-à-dire qu'elle encercle quelque chose, elle essaye d'emprisonner le vécu. Le vécu, c'est explosif, ça va dans tous les sens, c'est plein d'émotions, de trucs, de machins, etc. Le vécu, ça se laisse pas enfermer par des mots. Quand j'ai honte, je peux pas mettre de mots dessus. Quand j'ai honte, quand j'éprouve la honte, quand j'ai le sentiment de honte, quand je suis proche de l'humiliation, je n'ai pas de mots pour le dire. Donc il y a quelque chose. Et donc elle est de l'ordre de l'intuition, là. Quand je commence à me dire, mais qu'est-ce que c'est que la honte ? C'est une espèce d'intuition vague, indicible, vous disiez tout à l'heure. Il me semble que c'est de cet ordre-là. Donc partir... d'abord du vécu. Et donc, si vous voulez, alors, même pas une minute de silence, mais 15 secondes, parce que quand on a été humilié dans son enfance, on s'en souvient et on s'en souvient longtemps. Donc, vous n'avez pas besoin de réfléchir longtemps. Pour ceux qui l'ont vécu, vous avez tous, ou pour la plupart, une expérience de l'humiliation et une expérience de la honte. Voilà, je vois des yeux qui montent au plafond, comme ça. Voilà, apparemment, oui. Voilà. Et donc, je suis parti, comme il n'y a que ça qui m'intéresse, je suis parti de moi, bien sûr. Il y a les expériences, j'ai réfléchi sur mes propres expériences de la honte. Alors, je ne vais pas tout vous raconter parce que je ne peux pas les raconter. Mais par exemple, j'étais en classe.
Je ne dis pas la honte.
Enfin, je ne dis pas la honte, oui. J'étais en classe, je crois que c'était une classe de peut-être de sixième, donc enfant de 11 ans, qui est en train d'apprendre la vie, etc. Et le professeur d'histoire nous demande de lire le livre d'histoire, donc chacun à son tour, et c'est l'occasion de vérifier qu'on suit bien, parce qu'il y a des enchaînements, le prof d'un seul coup, hop, il demande à Dupont de dire... Alors, Dupont, qui était en train de rêvasser, il ne sait plus où il en est. Ça, c'est un moyen de contrôle intéressant. Mais bon. Et donc, il nous demande de lire. Et vient mon tour, je lis, et je tombe sur le terme « abaye ». En fait, ça se dit « abaye ». Alors, je dis « abaye ». Éclat de rire du professeur. Et bien sûr, les petits cons de la classe, pareil. Comme le professeur rit, il rit aussi. Et voilà, tout le monde de se moquer de moi parce que j'avais dit « abaye » au lieu de « abbaye ». Et aujourd'hui encore, donc ça fait un petit moment déjà, chaque fois que je croise le terme, alors je sais dire « abbaye » maintenant, ça c'est des apprentissages qu'on fait, hein, et on les garde, ça s'inscrit. Et donc, voilà que, eh bien, le sentiment de honte et d'humiliation, alors je ne l'éprouve plus là maintenant, hein, ça va, c'est cool, mais ça me rappelle une histoire à chaque fois. Et donc, quand il a été question de parler de la honte, la première chose à laquelle j'ai pensé, ben, c'est à cette situation où, eh bien, je me suis retrouvé humilié, alors avec les symptômes de la honte, hein, le rougissement, la tête baissée, hein, les palpitations, la transpiration, enfin tous ces phénomènes qui accompagnent la honte et l'humiliation et qui vont s'incorporer. Hein, il y a vraiment une incorporation du sentiment, hein, et qui fait partie de nous-mêmes et puis qui peut conduire effectivement, parce que la nuque baissée, c'est le signe aussi de la soumission. Et plus on a été humilié dans sa vie, plus on courbe la tête, plus les corps se replient. Hein. On l'observe, hein, chez des gens qui ont travaillé dans des métiers durs, éprouvants, etc. On observe ce corps qui se replie sur lui-même, qui a appris à obéir à ce qu'on lui demandait de faire. Donc, je vais vous lire un passage de « Ô vous, frères humains » d'Albert Cohen. Qui est une autre expérience. En ce 16e jour du mois d'août, à 3h05 de l'après-midi, sortant du lycée où j'étais allé suivre un cours de vacances pour cancre en arithmétique, je vis un attroupement. À l'affût de m'intéresser et de jouir de la vie, de ma vie qui venait de commencer, je m'approchais. C'était un camelot qui, devant sa table pliante, démontrait avec feu les mérites de son détacheur universel. Fort animé et me forgeant déjà mille félicités de connaissances nouvelles, je me faufilais au premier rang pour mieux entendre et admirer le blond camelot aux fines moustaches. J'étais très fort en admiration en ce temps de mon enfance. Oh, comme j'étais heureux d'écouter ce séducteur, de rire avec les badauds, de participer, d'en être. À chaque plaisanterie du cher camelot, si spirituel, je regardais mes voisins pour rencontrer leurs yeux, pour me réjouir avec eux, pour communier. Oh, comme il parlait bien et comme je l'admirais, et combien le merveilleux langage français était plaisant au petit étranger débarqué à 5 ans de son île grecque et qui le parlait encore si mal. Extasié, physiquement charmé, j'écoutais l'enchanteur, je le contemplais avec foi, une foi de petit chien. Je croyais en lui et je l'aimais. Ainsi était ce petit crétin aux boucles noires, aux longs cils recourbés. Quand, avec son bâton de miracle, le magicien faisait disparaître une tâche, je regardais de nouveau mes voisins pour m'assurer qu'ils appréciaient, pour savourer leur admiration, pour être en union d'émerveillement. J'étais heureux, je souriais au camelot, j'étais fier de lui, fier de sa compétence, fier de son accent parisien et je l'aimais. J'avais 3 francs dans ma poche, cadeau de ma mère en ce jour anniversaire, et je décidai d'en consacrer la moitié à l'achat de 3 bâtons de détacheur. Ainsi, le camelot m'estimerait, me trouverait intéressant et je pourrais rester longtemps à l'écouter, du droit d'un client sérieux. Et puis maman serait si contente, jamais plus de tâches. Le cœur battant, tout ému de l'important achat qui allait me valoir la considération des badauds et l'amitié du camelot, je mis la main dans la poche de mon costume marin pour en sortir la grande somme et j'aspirais largement pour avoir le courage de m'avancer et de réclamer les 3 bâtons. Mais alors, rencontrant mon sourire tendre de 10 ans, sourire d'amour, le camelot s'arrêta de discourir et de frotter, scruta silencieusement mon visage, sourit à son tour et j'eus peur. Son sourire venait de découvrir 2 longues canines et un paquet de sang massivement afflua sous ma poitrine, à hauteur du sternum, avec le choc d'un coup contre ma gorge. Sous son regard bleu pâle et son index tendu qui me désignait, je transpirais et de panique, j'humectais mes lèvres. « Toi, t'es un youpin, hein ? Ça se voit à ta gueule, tu manges pas de cochon ? Tu bouffes les louis d'or. Encore un Français à la manque. Ton père est de la finance internationale. Tu viens manger le pain des Français. Ah, je vous présente, mesdames et messieurs, un copain à Dreyfus, un petit youtre. C'est tous des traîtres, sont mauvais comme la gale. Allez, file, débarrasse-voir un peu le plancher. Va un peu voir à Jérusalem si j'y suis. » Ainsi me dit le camelot dont je m'étais approché avec foi et tendresse en ce jour de mes 10 ans. D'avance ravi d'écouter le gentil langage français dont j'étais enthousiaste, crétinement d'avance ravi d'acheter les 3 bâtons de détacheur universel pour me faire bien voir du camelot, pour lui plaire, pour en être estimé, pour m'en faire aimer, pour avoir le droit de rester, pour en être, pour participer à la merveilleuse communion, pour aimer et être aimé. Ô honte, encore à l'heure où j'écris, et c'est un aveu qui me coûte. Je fis un regard suppliant à mon bourreau qui me déshonorait. J'essayai de fabriquer un sourire pour l'apitoyer, un sourire tremblant, un sourire malade, un sourire de faible, un sourire juif trop doux et qui voulait désarmer par sa féminité et sa tendresse, un pauvre sourire d'immédiate réaction apeurée, et je tentai ensuite de transformer, de faire plaisantin et complice, genre « oui, c'est une bonne plaisanterie, mais je sais que ce n'est pas sérieux et que vous voulez rire et qu'en réalité on est de bons amis, un espoir fou d'enfant, sans défense et tout seul ». Il va avoir pitié, il me dira que c'était pour rire. Donc honte et humiliation. Alors bien sûr, il y a le mot honte, c'est un mot qu'on entend. Hein. Ça a été dit tout à l'heure, je me souviens que ma mère me disait « mais t'as pas honte ?» Voilà, il y a une espèce de réaction comme ça. Ça signifiait sans doute que j'avais mal fait ou j'avais mal agi, mais j'éprouvais rien à part un sentiment de culpabilité peut-être. Voilà, il y avait quelque chose de l'ordre de la morale qui me disait « c'est pas bien ce que t'as fait ». Donc voilà, j'étais plutôt dans la culpabilité quand j'entendais le mot « honte ». « T'as pas honte ?» je ressentais pas ce que j'avais ressenti à propos de mon affaire d'abbaye. Donc c'est un mot qu'on entend. On l'entend aussi quand on dit, quand on entend « c'est honteux ». C'est honteux ceci, c'est honteux cela, pour cette fois qualifier, juger les autres comme Cahuzac ou Bernard Tapie. Voilà, on dit que c'est honteux. Enfin, c'est au hasard, hein, c'est parce que j'ai pas d'option particulière, mais enfin bon, c'est les exemples qui me sont venus spontanément. Non, c'est pas vrai, je l'avais écrit déjà depuis un moment. Voilà. Donc là aussi, grâce à ce mot-là, on sent qu'effectivement, voilà qu'on nous donne un outil pour qualifier des comportements, qualifier les autres. Mais là encore, on n'est pas dans un sentiment personnel de honte, une émotion. Hein, c'est voilà, il y a des gens, on apprend à différencier les gens et on commence à savoir qu'il y en a qui sont pas fréquentables ou qui sont peu recommandables. Donc un apprentissage de la même pure. Mais même pauvre, on fait cette... moi, j'étais d'un milieu social assez, comme on dit maintenant, défavorisé. C'était intéressant le mot défavorisé. Défavorisé, c'est celui qui n'a pas reçu les faveurs. Alors on se demande, mais de qui il aurait reçu ou pas reçu les faveurs? Ça tombe du ciel? C'est de la providence? C'est quoi défavorisé? C'est un mot orphelin. un mot, comme dit Boltanski, c'est un mot orphelin. C'est-à-dire que bah, tu ne sais pas d'où ça vient. T'es malheureux, t'es pauvre, etc. T'as pas de fric, t'es en dessous du seuil de pauvreté, etc. Mais t'es défavorisé. Bah, t'es cool, hein, t'as pas de malchance. C'est pas tombé sur toi, voilà, c'est tout. Il n'y a pas de responsabilité nulle part, il n'y a rien. C'est un mot, hein, c'est intéressant, ça, défavorisé. Du manque de faveur qu'on puisse avoir. Donc, même comme dit Bourdieu, dans les milieux pauvres, on sait faire la distinction. On sait se distinguer. Et on sait se distinguer par rapport aux autres. Alors moi, je sais que dans mon enfance, il y avait ceux qu'on appelait de la cité Lorton. Ceux de la cité Lorton, c'était vraiment des gens. Alors, nous étions pauvres, mais alors, eux, ils étaient encore pires que nous, quoi. Alors, il fallait surtout pas aller les fréquenter, comme les Romanichel, ou ce qu'on appelle maintenant les gens du voyage, avec beaucoup de pudeur, hein, comme les touristes, hein, sont des gens du voyage, d'ailleurs. Les parents nous indiquaient par là qu'il y avait des lieux, des gens pas fréquentables, des lieux pas fréquentables, etc., etc. Et donc, des lieux honteux, hein, pas comme les maladies, hein, mais... Voilà, alors, oui, j'avais plusieurs types d'entrées, bon, je continue. Alors, les ingrédients de la honte, j'en ai dit déjà quelques mots, hein, c'est un ressenti, c'est des rougissements, un rythme cardiaque, une gestuelle, l'humiliation, donc je passe. Il y a aussi la présence des autres, hein, dans l'expérience de l'abbaye, et non pas de l'abbaye. Les autres nous infligent une blessure, hein, c'est en ce sens qu'on peut dire qu'elle est incorporée. Hein, il y a de la moquerie. Et là, c'était pour le coup le professeur avec, donc c'était encore plus. C'est un accroc dans notre image, tu l'as dit tout à l'heure, une blessure de l'amour propre. On est sale, on se sent sale et on est dans une solitude, plus qu'une solitude, parce qu'on est. La solitude, c'est. On est encore en dialogue quand on est encore en dialogue avec soi-même, même si, comme dit l'autre, être l'homme seul est en mauvaise compagnie. Mais dans la solitude, on est en dialogue avec soi-même. On se parle. Mais c'est pas la même chose dans la moquerie. La moquerie et la mise à l'index. Hein, on est isolé, on est montré du doigt, on est rejeté. Hein, ça n'a pas tout à fait le même sens. Donc il y a aussi une autre forme de dans le cas d'une situation sociale qu'on vit très mal. Je parlais du milieu dans lequel je vivais et j'étais mis en tension avec un milieu auquel j'aspirais. Hein, c'est-à-dire que je suis, comme disent les sociologues, devenu un dissident à ma classe. C'est-à-dire le déterminisme social aurait dû faire de moi, de me faire rester là où j'aurais dû rester socialement et de pas en sortir. Donc c'est un peu ce que dit Annie Ernaux ou Didier Ribon, etc., qui ont vécu ces décalages, hein, c'est-à-dire qui sont sortis de ces assignations sociologiques pour aller vers d'autres milieux. Ce qui fait, ils sont jamais à leur place. C'est-à-dire que quand ils retournent dans leur milieu d'origine, ce que dit bien Annie Ernaux, et quand ils retournent dans leur milieu d'origine, on dit « Ah bah quoi, toi t'es prof, qu'est-ce que tu racontes, tu fais de la philo, qu'est-ce que ça veut dire, etc. » Et puis quand ils viennent dans le milieu d'accueil, eh bien à ce moment-là, il reste quand même des traces, hein, il reste quand même des traces de leur éducation, de ce qu'on a reçu, etc. Alors quelquefois c'est dans un mot qui est mal employé, comme peut-être l'abbaye. Si j'avais été dans un milieu où on fréquentait les abbayes, sans doute que j'aurais jamais dit abbaye, mais bon, eh bien on est en décalage. Et là, les occasions d'éprouver de la honte de ce qu'on est, de là où on est, sont assez fréquentes. Il y a la honte des proches aussi, vous savez, ces amis que nous avons et qui à un moment vont, ça t'arrivera pas, Michel, je pense, mais qui à un moment, eh bien, nous trompent. C'est-à-dire que on leur fait confiance, on sait ce qu'ils pensent, on connaît la façon dont ils se comportent, et un jour, ils sont en décalage avec l'image qu'on avait d'eux. Et là, nous avons honte d'eux. Mais on l'éprouve nous-mêmes. C'est-à-dire que nous étions tellement liés que nous finissons par éprouver presque, alors pas forcément avec des neurones miroirs, mais nous finissons presque par éprouver la même chose que si nous avions été la victime nous-mêmes de cette humiliation-là. Hein ? Tu voulais dire quelque chose peut-être ? Non ?
Tu avais employé la notion d'amour propre. Et je m'interrogeais sur ce propre qui n'est sans doute pas à opposer au sale, encore que, je ne sais pas, mais c'est sans doute l'amour approprié au sens de la propriété. Je ne sais pas, c'est ça ?
Oui, c'est soi-même, c'est le propre, c'est ce qui nous est propre, c'est l'amour de soi, théoriquement. Ça n'a rien à voir avec le sale ou le... dans la langue, en tout cas.
C'est drôle.
Après,
que...
c'est ce qu'on entend. Parce que c'est ce que vous entendez.
Oui, oui.
Ça peut aussi... Enfin, je pense que le son, la sonorité des mots et ce qui véhicule comme image peut nous toucher.
Oui.
Si vous entendez le propre par rapport au sale, c'est aussi intéressant.
Mais oui, oui, oui,
oui. Oui, parce qu'il y a des amours qui peuvent être salis.
Mais oui.
Et oui, ça devient des amours sales. Oui. Ça vous dit quelque chose, peut-être, non? Bon. Alors, là...
Amour de soi, amour propre.
Chez Rousseau, oui.
Chez Rousseau, l'amour propre serait considéré comme particulièrement sale.
Oui, parce qu'il est centré. Oui.
Parce que c'est l'égoïsme, oui.
C'est l'égoïsme, oui.
Oui, oui. Oui. Mmh. Oui.
J'en viens, au dégoût. À l'occasion d'une humiliation, on finit par se dégoûter soi-même. Hein. Donc voilà pour le versant, je dirais, psychologique. Mais honte et dégoût sont pas forcément, et j'y reviendrai tout à l'heure, ne sont pas forcément négatifs. Et on verra de quelle manière ils peuvent être utilisés positivement dans la mesure où ils génèrent de la révolte et de la colère. Et cette colère et cette révolte, plutôt que de se retourner contre nous-mêmes, peut devenir intéressante ensuite pour créer du collectif. Hein. Donc, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, le dégoût des autres, le dégoût de ceux qui ne sont rien. Je ne fais pas d'allusion. Hein. Voilà. Sur la base, effectivement, quand on a un dégoût, quand on a autour de soi les gens dont je parlais tout à l'heure, alors ça peut susciter de la compassion, ça peut susciter de l'aide, etc., voire de la pitié, mais ça peut susciter aussi un dégoût politique de ceux qui sont là, allongés sur les trottoirs, qui ne travaillent pas, qui viennent migrer dans notre pays, qui ne sont rien, qui boivent, qui sont illettrés, qui n'auront même pas une Rolex à 50 ans ou qui ne deviendront pas milliardaires avec de beaux costumes, etc. Bon, bref, ceux-là, ça te dérange. Hein, ce sont des gens qui ne sont pas dans la norme sociale telle qu'on veut nous l'imposer. Et ce sont des idées qui courent, qui sont dans l'air. Et donc, d'une certaine manière, ça te permet de dire que toi, tu n'y es pour rien, en fait. Hein, que si les gens sont dans la merde, eh bien, c'est parce qu'ils le veulent bien. Et puis c'est eux qui devraient avoir honte de leur situation, quoi. Parce que, quoi, quand même, tu pourrais bien te bouger un petit peu, tu pourrais te remuer, etc., et sortir de là où tu en es. Hein. Et là, facilement, on peut avoir honte pour eux et ils peuvent facilement nous dégoûter. Et alors, si t'ajoutes à ça, si t'ajoutes à ça que ta sensibilité elle est exacerbée à l'hygiène et à la sécurité, et au point que tu ne supportes pas que les gens qui prennent pas de douche par jour au gel, qui laissent la peau satinée, ça peut effectivement être un motif de dégoût, hein, cet aspect-là. Donc c'est une espèce de conditionnement qui fait que nous sommes... La honte, elle, c'est pas un sentiment universel. Comme il a été dit tout à l'heure, pour qu'il y ait un sentiment de honte, il faut qu'il y ait quelque part l'œil de Caïn, hein, il faut qu'il y ait quelque part un œil qui nous dise les normes sont ainsi, et si tu es pas dans les normes, eh bien tu... alors, bien sûr, tu peux être en décalage, mais en tous les cas, voilà l'occasion une occasion d'éprouver ce sentiment, d'éprouver cette émotion, de ce sentiment de honte. On peut passer la diapo, là, peut-être ? Alors, donc vous voyez les images, oui ? Oui. Alors, oui. Ah ouais. Bon, allez, vas-y, vieux, décide-toi. Faut bien qu'il y ait une première fois, que ça te plaise ou pas, faut que tu le fasses. Plus tu recules, pire c'est. À partir de maintenant, il faudra que tu le fasses tous les jours. Fais-toi cette idée, vieux, tous les jours de ta vie, tous, jusqu'à la fin. D'autres comme toi le font aussi et il ne se passe rien. Et qui est-ce que ça gêne, un mendiant de plus ? Il y en a tellement. Courage, vieux, un peu de courage. Tu vas voir, c'est facile. t'as même pas besoin de dire quelque chose, rien qu'à tendre la main, comme ça. Alors, des goûts des autres, peut-être une petite distinction quand on parle des autres. Bon, il y a les autres, il y a les autres, ceux qu'on fréquente habituellement. Il y a à peu près, on va dire, trois cercles d'autres. Il y a les autres, alors là, ça fourmille, hein, on en croise partout, dans les rues, dans les ascenseurs, dans les supermarchés, etc. Ça, ce sont des autres. Hein, avec qui alors ils sont intéressants parce que on voit bien quand même que malgré ce nombre, malgré cette surpopulation, eh bien chacun tire à peu près son parti, on s'efface, on laisse passer, etc. Bon, quelquefois il y a des petits accidents, mais quand on voit la façon dont ça fonctionne, on est assez surpris par l'énergie dépensée par les uns et les autres pour que ça tourne à peu près, pour que la société tienne à peu près debout. Donc ça, ce sont des autres, et là il y a plutôt que du goût, il y a de l'indifférence, hein, c'est l'indifférence aux autres, sauf quand on en croise un petit peu particulier, tiens, celle-là, elle a un foulard, bon, bah, c'est sûrement un terroriste, ou bien encore, ou celui-là, il est couché sur le trottoir, bon, bah, il est, voilà, c'est un bon à rien, ou enfin, des choses comme ça. Hein. Donc, là, notre regard est un peu, quand l'enfant voit quelqu'un passer un petit peu claudiquant, etc., il dit à sa maman ou à son papa, pourquoi il n'est pas pareil, le monsieur ? Les enfants sentent effectivement cette différence, hein, qu'il y a. Ils perçoivent intuitivement ce qu'est la normalité. Mais bon, globalement, donc ça circule. Hein, les automobilistes se laissent passer. Il faut être rentré dedans, etc. Il y a un deuxième cercle, le cercle des utilitaires, je vais appeler. Hein, c'est la boulangère, voilà, qui à chaque fois me témoigne un grand signe de reconnaissance. Bonjour, Monsieur Mars, comment ça va ? Alors, une baguette comme d'habitude. Voilà. Donc, voilà, ça fait du bien, d'être reconnu et dans un petit stroke comme ça pour démarrer la journée, c'est pas négligeable. Donc il y a la boulangère, puis il y en a plein d'autres comme ça que nous fréquentons régulièrement, vis-à-vis desquels on n'est pas complètement indifférent, puisque c'est quand même eux qui nous fournissent le pain, avec qui voilà, on peut bavarder un peu, etc. Puis il y a les voisins aussi, hein, avec qui on mange une fois par an, ou avec lesquels on est vigilant, comme il est indiqué à la porte des villages. Et puis qui quelquefois font du bruit. Mais bon, voilà, ça c'est le deuxième cercle. Hein. Et puis il y a le cercle des proches, hein, le cercle des proches avec lesquels on est en face. Bon, voilà. Donc tout cela n'est pas sujet à on n'a pas besoin d'avoir honte. On a honte des gens qui sont comme je vais utiliser le mot, hein, parce que c'est un peu plus percussif. Ceux qui sont anormaux. Maintenant, on n'a plus le droit de dire anormaux, hein, mais fondamentalement, ce sont des anormaux. Parce que l'expression que Michel Foucault employait, ce sont des anormaux, c'est-à-dire ceux, au sens strict, qui ne rentrent pas dans la norme. Alors, pour différentes raisons, hein, sociales, psychologiques, physiques, etc., ils sont hors normes, et ils sont, alors on ne les dit pas anormaux, etc. Donc, c'est avec eux que nous avons le plus de difficultés, hein, qui peut porter quelquefois, comme je l'ai déjà indiqué tout à l'heure, qui peut porter quelquefois au dégoût. Parce que ces personnes-là, notamment quand elles sont vieilles ou handicapées, eh bien, elles nous disent une chose, c'est que nous sommes des êtres fragiles. C'est que le petit vieux que je croise ou le type que je vois sur le trottoir, quelque part, il me dit, ça pourrait bien t'arriver aussi. Vieux, c'est sûr que ça va m'arriver. Mais sur le trottoir, ça peut arriver aussi. C'est-à-dire que du jour au lendemain, il y a aujourd'hui des gens qui peuvent se retrouver sur un trottoir, sans domicile, SDF. Plus facile de dire SDF, parce que comme ça, on gomme un peu aussi la cruauté sociale. Les sigles ont cet avantage-là, hein, c'est de gommer les cruautés. Ces gens-là nous indiquent, le vieux, la personne handicapée, les personnes fragilisées, vulnérables, nous disent quelque part, tu deviendras comme ça, tu peux devenir comme ça. Et ça, c'est insupportable. C'est insupportable de prendre conscience régulièrement, quotidiennement, de prendre conscience que nous sommes des êtres finis, des êtres vulnérables. Et il y a quelque chose là qui peut porter, sinon au dégoût, parce que le mot est un peu fort, mais en tous les cas au rejet ou en tous les cas à l'indifférence. Il y a donc une raison comme ça. Il y a une autre raison, me semble-t-il, qui est plus idéologique, hein, je l'ai dit tout à l'heure, c'est... ce phénomène qui consiste à dire, mais au nom de quoi, je l'ai évoqué, mais au nom de quoi je peux juger une personne. Hein. Au nom de quoi une personne elle-même, elle peut éprouver un sentiment de honte compte tenu de ce qu'elle est. Il a bien fallu que ça se construise quelque part. Et alors, où est-ce que c'est que ce quelque part? J'aime bien les mots quelque part, parce que ça met de l'incertitude dans le propos. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment ou un autre, on puisse constituer des sujets en sujets de honte? Hein, il y a quelque chose là, et donc il faut recourir. C'est pas un sentiment universel. Il a été construit, vous l'avez dit tout à l'heure. Il a été construit à un moment dans, comme la dignité, etc. Ça a été construit à un moment de notre histoire, et il faut donc que se produise de l'idéologie, c'est-à-dire de la norme, qui permette effectivement de juger des individus. Et donc il y a la morale, elle va jouer ce rôle-là. Et Nietzsche, par exemple, disait que, mais ça peut se retourner contre nous. C'est-à-dire que la morale, elle te culpabilise, hein, elle te dit là tu as transgressé, comme dans l'histoire de tout à l'heure, tu as transgressé et tu dois payer, donc tu es coupable. Mais il y a pire encore, c'est-à-dire que au-delà de la culpabilité, ce qui était la distinction qui était faite tout à l'heure, il y a la honte qui repose uniquement sur un jugement moral, mais même un jugement moral que j'ai intériorisé. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui me vient de l'extérieur, mais quelque chose que j'ai complètement intériorisé et qui, d'une certaine manière, va me mettre en... C'est pas le trou de la serrure de Jean-Paul Sartre. Vous savez, Sartre, bon, il louchait un peu, mais bon, il regarde par le trou de la serrure. Il regarde par le trou de la serrure, et puis bon, je pense qu'il, je sais pas ce qu'il regarde, peut-être une femme à poil ou quelque chose comme ça. Quelqu'un comme ça. pardon, mesdames.
Coupez le micro.
C'était du off. Ah mais c'est des vieux réflexes, hein, qu'est-ce que vous voulez. Comment ?
Est-ce que tu en verras pas ?
J'ai même pas honte. Et donc, il regarde par le trou de la serrure. Donc, tout va bien. Bon, ça veut dire qu'il n'a pas beaucoup de conscience, mais enfin, tout va bien. Et voilà que sur ces entrefaites, arrive quelqu'un qui le regarde. Alors, Sartre dit pas, il emploie des termes un peu compliqués. Il dit, je suis objectivé. Je suis objectivé, c'est-à-dire, je suis rendu objet par l'autre. Hein, l'autre m'objective. Et sous le regard de l'autre, je ploie, effectivement, je baisse, je courbe la tête, parce que sous ce regard pesant, eh bien, voilà, je suis devenu, non plus, je ne suis plus un sujet, mais je suis un objet à sa merci. Et dans ce processus, quand je tombe sous le regard des autres, je deviens, donc philosophiquement, objet, hein, objet asservi. Donc il y a tout un corpus de normes qui aujourd'hui traverse notre société. On a écrit avec Michel un livre qui s'appelle La tyrannie du bien vieillir, livre qui sera réédité prochainement en vente. Et j'en profite pour vous dire que nous sortons un dictionnaire impertinent de la vieillesse. Alors, contrairement au vôtre, il est dans les librairies et vous pouvez aller le chercher. Alors donc il y a ce qu'on appelle la moraline ambiante, hein, bien vieillir, le bien vieillir, le bien vivre ensemble, le bien courir, et même le bien baiser, le bien manger, le bien mourir, enfin voilà. Il y a toute une idéologie qui c'est pas que des mots, hein. Là pour le coup, faut aller chercher derrière. C'est que derrière les mots, il y a des recettes, il y a des recommandations, il y a des intrusions dans la vie des individus pour leur dire voilà comment vous devez vous comporter. Hein. Vous devez marcher, vous devez boire x litres d'eau, vous devez consommer x légumes, surtout ne pas fumer et ne pas boire, aller régulièrement chez le médecin. Si vous n'y allez pas, donc les sanctions, au moins déjà morales, peuvent tomber. Ah bah oui, forcément, t'as un cancer, t'avais qu'à pas fumer. Hein. Bah oui, voilà, mais j'avais un peu de plaisir quand même. Bah tant pis, tu renonces à tes plaisirs et tu suis les consignes de ton médecin et de ce qu'on dit. Et puis, comme aux États-Unis, et bah, puisque t'as fumé et puis que t'as un cancer, bah, tu seras pas remboursé. Ou moins remboursé. Ah oui, mais ça existe, hein, ces affaires-là. Et donc, voilà. Et du coup, ça prépare à des propos du type « tu me dégoûtes. Voilà comment tu es, etc. Tu pourrais pas. Tu te laisses aller, en fait. Tu suis pas les bons conseils d'hygiène et de sécurité. Et donc, c'est normal que tu payes maintenant. Alors. Pour parce qu'il va falloir que je termine, j'avais beaucoup de choses encore à vous dire, mais bon. Alors, il y a, me semble-t-il, il faut retrouver le goût des autres. Alors, c'est pas le film de... J'aurais pu citer le film avec Tim Seat, la crise. Là, il y a le film avec Bakri qui s'appelle Le goût des autres. Bon, qui... Le goût du, c'est le goût, reprendre goût à des, aller dans des univers qui sont pas forcément les nôtres, et puis rencontrer des gens différents, c'est ce qui va arriver à Bakri, hein. Il va rencontrer des gens qui sont pas de son milieu, et il va y prendre goût, notamment grâce à l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a en magasin pour retrouver le goût des autres? Alors, il y a la morale. La morale, bon, j'en ai dit quelques mots, mais on va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. La morale, elle oblige, elle nous contraint effectivement à nous intéresser aux autres. Il y a l'amour. Alors l'amour, c'est très couru en ce moment, hein, puisqu'on nous demande d'aimer son prochain sous une autre version, une version plus laïque. Les philosophes, d'ailleurs, écrivent beaucoup sur l'amour en ce moment. Je crois qu'il y a quelque chose qui se passe de ce côté-là. Il y a aussi, bon, il y a un processus. Il y a un processus qui est... Alors, là, je suis... Ce qu'on appellerait aujourd'hui l'externalisation. Vous savez que dans beaucoup d'institutions, on externalise, hein, c'est-à-dire la cuisine, au lieu de la faire soi-même, eh ben, vous la faites faire par quelqu'un d'autre. Eh ben, vous externalisez aussi, puisque vous commandez des pizzas, eh ben, vous faites faire la cuisine par quelqu'un d'autre. Hein, du ceci ou du cela. Donc, le processus d'externalisation est un processus qui mérite, sinon, qui est... peut-être pas inquiétant, mais en tous les cas qui mérite d'être interrogé. Ce qu'Ivan Illich a fait, hein, d'une certaine manière, c'est-à-dire que externaliser, c'est confier à des tiers des tâches qui vous revenaient en propre auparavant. Hein. Par exemple, autrefois, c'était les tâches d'éducation. Autrefois, on gardait les personnes âgées, on les gardait à la maison, etc. Maintenant, on les confie à des maisons de retrait. Hein. C'est une externalisation, si vous voulez. Le soin, il est confié à quelqu'un d'autre. Et il y a là un processus quand même qui est... ou alors on les confie à des objets technologiques. C'est-à-dire la sécurité de quelqu'un, elle est confiée à une téléalarme. Et donc avec les effets contraires que ça peut provoquer. Hein. Mais externaliser, en tous les cas, les gens sont pris en charge. C'est ça ? Les gens sont pris en charge, ils sont... ou placés quelquefois, hein. Il y a aussi une idée qui est dans l'air, c'est celle du care, hein, dont on... Bon, la version Martine Aubry, c'est plutôt le care, c'est le soin, mais le care, c'est l'attention aux autres, c'est-à-dire à l'ordinaire des choses. C'est-à-dire que si cette réunion a lieu, alors bien sûr, c'est grâce à Bérangère Tailleux, à Michel Billet, puis à tous ceux, aux membres du conseil d'administration, mais c'est aussi grâce au fait que quelqu'un a fait le café ce matin, pour vous accueillir, ou quelqu'un a nettoyé la salle ici hier soir pour qu'elle soit propre. Et donc le care, vous voyez, c'est pas simplement prendre soin, c'est faire attention aux autres et à ceux qui sont en bas, invisibles, hein, voilà. Donc c'est de nature peut-être à un exercice à faire, hein, qui peut modifier notre regard. Le bénévolat, bien sûr, est une forme de rapprochement des autres. Une fréquentation, quand on fréquente une personne handicapée ou quand on fréquente les réfugiés, il y a quelque chose, comme dit Bergson, il y a quelque chose de l'hésitation. À un moment, on avait une représentation, on va rencontrer ces réfugiés, je le dis, hein, parce que ça m'est arrivé, j'ai une représentation, j'arrive et j'hésite. J'hésite dans ma représentation. Et il y a une question qui vient, c'est « Mais et si c'était pas comme je le pensais ?» Et effectivement, ces personnes dont on dit qu'elles sont sales, eh bien, elles prennent toujours soin d'elles. Les enfants sont correctement habillés. Il y a même les réfugiés qui mettent des cravates, etc. Ils vivent dans des tentes décathlon pourries, là, et ils s'habillent. C'est-à-dire qu'ils viennent au monde chaque jour habillés. Ils n'ont pas de toilette, ils n'ont pas d'eau, mais ils viennent au monde habillés. Et il me semble que là, dans cette détresse-là, il y a toujours quelque chose. C'est ce que disait Primo Levi aussi hein, à propos dans les camps de concentration. Même dans les états de dénuement les plus absolus, eh bien, il y a quelque chose de l'ordre d'une liberté ou d'une dignité qui peut ressortir. Alors, il y a aussi un point, me semble-t-il, et je reviens à mon propos du départ, c'est que honte et humiliation, c'est de la colère rentrée, c'est de la révolte rentrée, le plus souvent, mais c'est aussi peut-être c'est du ressentiment, mais c'est aussi, ça peut être un moteur de l'action. C'est-à-dire que si je trouve que à un moment je prends conscience que le sentiment de honte que j'éprouve, que l'humiliation que je subis n'est pas juste, à ce moment-là, elle me donne le moyen d'engager une action pour lutter contre cette injustice, pour lutter contre cette humiliation qui m'est faite. Et à ce moment-là, grâce à cette dynamique, je me mets hors de moi-même et j'entre en contact avec les autres, je crée du collectif. Je crée du collectif et plutôt que du vivre ensemble, je crée de l'agir ensemble. L'agir ensemble, c'est ce que dit Sartre, on passe du pratico-inerte à la praxis. C'est-à-dire qu'on est dans le TGV, on se parle pas, on est dans l'inertie de la plus totale, on passe 3 heures avec un voisin avec qui on n'engagera jamais la conversation, tout le monde est dans son truc, dans son machin, et voilà. Et d'un seul coup, le train s'arrête. Pleine campagne. Qu'est-ce qui se passe? Ah voilà, on sort de son portable, on sort de son ordinateur, et voilà, tiens, j'ai un voisin. Et on se met à se regarder, etc. Donc ça, c'est la première phase. Ça dure un petit peu longtemps. On se met même à se parler. Et voilà qu'on se parle. Troisième phase, ça dure encore vraiment longtemps. Eh bien, non seulement on se parle, mais on se dit, mais maintenant, on va faire quelque chose parce qu'il y en a marre. Voilà. Et là, on passe de la pratico-inerte, comme dit Sartre, à la praxis, à l'engagement. Et il me semble que quand vous faites passer le sentiment de honte et l'humiliation, quand vous le faites passer dans l'action, eh bien, le contraire de la honte, c'est la fierté. Vous redevenez des gens fiers. Merci.